France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir, quel bilan pour cette campagne express qui s'achève ce soir? On le saura dimanche soir, mais on peut déjà tenter de faire le point sur ces deux semaines de campagne officielle, presque trois, si on ajoute les quelques jours qui ont suivi l'annonce de la dissolution, car cette séquence politique n'a ressemblé à aucune autre. Une fois passée la sidération, on a assisté à une accélération sans précédent du temps politique, comme si on était pris dans une essoreuse avec, en un temps record, la reconstitution de la gauche, l'éclatement de la droite, l'élargissement de l'extrême droite et la démonétisation du chef de l'État. On reviendra d'ailleurs sur l'attitude du président de la République qui, malgré les demandes de son propre camp, a continué à parler, à se justifier jusqu'au dernier jour. On s'arrêtera sur les mots utilisés par les uns et par les autres, parfois bien éloignés du champ lexical habituel, sur leurs conséquences aussi sur la cohésion nationale. Peut-être est-ce dû aussi à l'état psychique du pays obligé de replonger dans la bataille politique au mois de juin, à l'heure des fêtes de fin d'année, du début des vacances, de l'Euro de football et à l'approche des JO. Avec nous, pour en parler, plusieurs invités qui ont l'habitude de décrypter les situations que nous vivons. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de communication à Sciences Po Paris, associé au cabinet de conseil Iconique, co-auteur aux arènes d'une BD intitulée Le Président, une fable politique. François-Mickey Marty, bonsoir.
Bonsoir.
Président du groupe Les Temps Nouveaux, dont fait partie l'Institut de sondage Via Voice. Vous avez publié Les Nouvelles Fractures de l'Humanité, c'est aux éditions de l'Aube. Bonsoir Mariette Darigrand.
Bonsoir.
Sémiologue, directrice du cabinet de travail des faits et des signes. Vous venez de publier L'Atelier du Tripalium. Non, le travail ne vient pas de torture, c'est aux éditions Les Équateurs. Et merci à Nicolas Lebourg, historien, qui est resté avec nous. Merci à tous. Vous le voyez, ce soir, on va parler politique, mais pas seulement. Alors, à vos téléphones.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Cara.
Bonsoir.
Vous nous appelez de la région parisienne.
Oui, exactement, c'est ça. Enfin, là, plutôt d'Avignon, du coup.
Et alors, vous souhaitiez réagir à cette campagne éclair. Comment l'avez-vous vécu?
Alors, du coup, moi, personnellement, quand j'ai su la dissolution, le plus vite possible, j'ai essayé de m'organiser pour faire un peu le tour de France et filmer un documentaire, du coup, sur les militants jeunes, plutôt à gauche, du coup, qui s'engagent pour le nouveau Front populaire. Voilà.
Voilà, vous avez réagi et vous avez trouvé du monde, vous avez...
Oui, ouais, j'ai trouvé du monde.
Alors, de l'émotion, des réactions?
Bien sûr, ça a été très, enfin, ça a été quand même assez difficile d'enchaîner parce que ce sont déjà des militants qui sont dans des jeunesses, dans des orgas de jeunesse pour la plupart. Et en fait, ce sont des gens qui terminaient les européennes et qui, du jour au lendemain, en fait, ont dû se remettre en campagne. C'est pas facile, c'est 3 mois de campagne qui s'enchaînent avec 2 mois, enfin 2 semaines express. Et donc, voilà, j'ai voulu les suivre un peu dans le rush. Moi-même, j'étais un peu dans le rush, j'avoue.
Et
donc,
si vous aviez un mot, Cara, sur leur état d'esprit, ce serait quoi?
Faut pas que j'ai piège.
Non, mais est-ce qu'ils ont de l'espoir? Est-ce qu'ils ont...
Bien sûr, il y a beaucoup d'espoir, en fait. On est en train de vivre une reconstitution de la gauche qui est folle, qui fait que moi, j'ai décidé de partir les rencontrer. Moi, je suis de Paris, je connais pas du tout la situation. J'ai toujours vécu à Paris, je connaissais pas la situation autre part, en fait, honnêtement, en France. Et du coup, il y a beaucoup d'espoir. Effectivement, c'est ce qui fait qu'ils tiennent aussi et qu'ils ont tenu pendant toute cette campagne qui termine ce soir.
Merci beaucoup, Cara. Vous nous ferez signe quand vous aurez fini le documentaire. Ce sera toujours intéressant pour l'histoire, hein, forcément, parce qu'on est en train de vivre des moments très, très particuliers. On va faire un petit tour de table et vous allez nous dire peut-être comment vous qualifiez les 3 semaines qu'on vient de vivre. Mariette Darigrand, vous qui êtes sémiologue.
Plein de qualificatifs possibles. Du point de vue du langage, c'est quand même très intéressant. Mais ce qu'a dit Cara, et je trouve, vraiment donne la caractéristique première de ce moment, c'est-à-dire l'effet d'annonce. Il y a une annonce, et ça constitue, avant même les sens des mots, un acte de langage, une énonciation particulière. C'est ce qu'on appelle la performativité du langage. Alors, cette chose-là, c'est-à-dire on dit quelque chose, vous dites oui le jour de votre mariage, hop, vous êtes marié. Vous dites je dissous, hop, ça crée quelque chose. Elle a entendu, hop, elle a pris le train, elle est partie. Voilà, ça c'est la performativité du langage. Je m'étais inquiétée de l'arrivée de ce concept dans la langue des communicants, la langue des observateurs, en disant le langage politique ne veut plus rien dire, il est plus performatif, il faut le rendre performatif. Et je pense que c'est un gros problème, parce que à part « lève-toi et marche », ou à part que la lumière soit, ça marche pas comme ça, le langage humain. Ça ne crée pas le réel. Et je pense qu'il y a eu une illusion collective, hein, pas seulement chez Emmanuel Macron, mais chez des conseillers, chez des observateurs, sur le fait qu'aujourd'hui, la société avait besoin de cet passage à l'acte violent, difficile, etc. Donc ça, c'est vraiment, je crois, la première chose qu'on doit se dire sur cette période. C'est pour ça qu'on est tous angoissés. Parce que qu'est-ce que c'est un langage performatif ? C'est un langage vide. Il n'a pas besoin de... Quand vous dites oui, c'est pas pour répondre à quelque chose, c'est pour poser un acte. Et du coup, la parole est vide, et elle devient folle, et elle devient... et elle nous angoisse tous. Je pense que c'est ça la première chose.
Philippe Morin-Chavrolet, sur ce
Oui, je suis d'accord avec ça, mais c'est surtout... moi, je dirais que c'est, si j'avais un qualificatif, ce serait suicidaire. Parce qu'on a une démocratie qui est déjà extrêmement fragile. Provoquer une dissolution au lendemain d'une victoire historique du Rassemblement National, donner 2 semaines de campagne, c'est favoriser une logique populiste. Il n'y a aucun démocrate qui, en 2 semaines, est capable de renverser la rivière populiste du RN. Ça n'est pas possible. Donc c'est condamner le pays à entrer dans une autre ère. On ne sait pas très bien laquelle, mais on sait que c'est menaçant pour nos libertés, pour la démocratie. Donc au-delà du fait que le langage est vide, c'est surtout qu'on ne comprend pas cette séquence. Il n'y avait aucune nécessité à déclencher cette dissolution. L'économie commençait à s'arranger un peu, ça commençait à remonter un peu. On est replongé dans une logique qui sans doute va être très difficile pour les plus fragiles, c'est-à-dire précisément pour ceux qui vont voter pour le Rassemblement National, en grande partie. Donc on est dans une situation où sans aucune nécessité, on est replongé dans une crise aiguë. C'est très très dur à vivre pour les gens. C'est pour ça que vous avez des sentiments de colère, de frustration qu'on voit dans toutes les enquêtes. Et depuis longtemps, hein, depuis le Covid. Mais encore une fois, on commençait à aller un peu mieux et là on replonge. Le rôle du politique n'est pas de détruire. Le rôle du politique devrait être de construire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'essentiellement, dans nos échanges interpersonnels, dans les échanges interpartisans, dans l'attitude du président de la République, je suis vraiment navré de le dire, on détruit, mais on ne construit rien.
François Miquet-Marty, je crois qu'il y a quelqu'un, c'est Raphaël Lorca, si mes souvenirs sont bons, qui a parlé de coup d'État psychique. On en est là ?
Il y a une dimension, alors je ne sais pas si c'est un coup d'État, mais enfin tout au moins, il y a une dimension psychique, émotionnelle, qui est extrêmement forte. Alors en effet, plusieurs enquêtes d'opinion ont été faites. On a... pour quantifier les choses. On a, après cette annonce de dissolution, et puis dans la perspective législative, on a 39% des Français qui se sont déclarés angoissés, donc les mots en effet sont puissants, et en même temps, ça crée aussi des clivages qui sont importants, savoir que on a, en effet, ce qui prédomine de manière globale, hein, 56%, c'est de l'inquiétude, de la peur, autrement dit, des affects extrêmement négatifs, mais on a aussi, et je pense qu'il ne faut pas le négliger, d'ailleurs, votre auditrice le disait tout à l'heure, des personnes qui retrouvent de l'espoir, c'est 34% des gens, alors ces personnes qui retrouvent de l'espoir, on les trouve en effet plutôt en effet du côté du Front Populaire. On les trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup du côté du Rassemblement National. On a 63% des sympathisants du Rassemblement National aujourd'hui qui disent que ce moment-là, et on comprend pourquoi, leur redonne de l'espoir. Autrement dit, on a une campagne qui, vous l'avez très justement rappelé, est très singulière dans sa forme, mais qui aussi est très singulière dans l'intensité des émotions qu'elle véhicule, plutôt négatives, mais aussi parfois positives. Et puis, on y reviendra peut-être. C'est une élection qui, en très peu de temps, en quelques jours quasiment, crée des clivages très importants, majeurs, et qui, à mon sens, fracture beaucoup la société française.
Nicolas Lebourg, sur ce côté espoir du côté des militants, des responsables du Rassemblement National, vous qui êtes historien, spécialiste de l'extrême droite, vous le voyez cet espoir ?
On parle d'un parti qui faisait 0,74% en 1974. Il est tout à fait rationnel qu'après des décennies arrivées au pouvoir, l'idée d'arriver au pouvoir soulève pour eux de l'espoir. Sur ce que disait Chiara et la séquence, ça me fait penser quand même à une phrase d'un historien suisse qui disait « Les Français pensent historiquement leur conflit parce qu'ils pensent conflictuellement leur histoire. » On a une affaire politique, on parle de 1936, du Front Populaire. On a un scrutin dont chacun voit bien qu'il va avoir une autre gravité que les élections départementales de 2015 à laquelle vous aviez voté. On a quelque chose quand même qui est du domaine effectivement profondément clivant parce qu'on mobilise l'histoire dans une visée politique qui devrait être une visée politique ordinaire et qu'hélas elle ne l'est plus.
On va repartir au standard de France Inter, retrouver Pascal qui nous appelle du Val d'Oise. Bonsoir Pascal, bienvenue à vous.
Oui, bonsoir Fabienne et merci pour...
Alors c'est clair le vendredi Pascal, mais je ne vous en veux pas, c'est vrai que c'est compliqué, faut se remettre en tête que c'est pas le même jour de la semaine, voilà, je ne vous en veux pas. Pascal, vous avez une question, une remarque ?
Oui, donc voilà, je souhaiterais savoir quels sont, on sait que la valeur n'attend pas le nombre des années, et je souhaiterais savoir qu'est-ce qui justifie et qui permette à M. Bardella de briguer le poste de Premier ministre? Quelles sont ses formations, ses expériences, etc. Et pourquoi également les journalistes ou les débatteurs à l'occasion des débats télévisés ne l'ont-ils pas bloqué ou interrogé sur ce point-là?
Merci beaucoup, Pascal. François-Mickey Marty, vous souhaitez réagir
alors,
sur ce point?
Oui, alors il y a plusieurs facteurs. Parce qu'au fond, la décision est une décision. D'abord, on ne sait pas encore qui sera le prochain Premier ministre. Et puis la décision, in fine, appartient au président de la République. Et puis quand même à la majorité, mais soit-elle relative, qui est présente à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, au fond, si le président de la République nomme en tant que Premier ministre quelqu'un qui ne convient pas au groupe majoritaire, il peut y avoir une opposition. Donc, laissons faire les choses. Alors, c'est vrai que le nom de Jordan Bardella est beaucoup mis en avant. D'abord parce qu'il est, en général, dans les enquêtes d'opinion, le plus populaire. Au sein du Rassemblement National. Ensuite, parce qu'il est parvenu probablement, et c'est l'une de ses forces, à fédérer des publics beaucoup plus différents que ça n'était le cas par le passé de la part du Rassemblement National. C'est-à-dire, il fédère aussi, en termes de soutien, en termes de popularité, il a 40 voire 50% de popularité auprès des sympathisants LR, auprès parfois du centre droit. Autrement dit, il fédère beaucoup plus largement. Voilà. Et donc, fédère veut dire qu'il rassure d'une certaine manière. Je crois que c'est l'un de ses éléments importants. Et puis, le dernier élément qui compte beaucoup, c'est qu'il porte une vision de société qui correspond à une grande partie. Au fond, il est sur le fond, non pas uniquement en termes de forme. Parfois, il essaie bien parler, il a une capacité à porter des messages que l'on peut lui reconnaître. Aussi sur le fond et en termes de valeur, et je crois que c'est l'un des éléments importants aussi de cette période électorale très inédite que l'on connaît aujourd'hui, il est en mesure de porter des valeurs qui soient les plus fédératrices. Donc ça fait un certain nombre d'éléments qui sont convergents en sa faveur, mais encore une fois, les choses ne sont pas écrites.
Voilà, et j'ajoute au dernier baromètre Harris Interactive, en matière de cote de popularité, il détrône, paraît-il, Édouard Philippe, Jordan Bardella. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce jeune homme, parce qu'on peut dire jeune homme quand même.
C'est un jeune homme, et puis il a jamais travaillé.
28 ans.
Pour répondre à votre auditeur, il n'a jamais travaillé en dehors de la politique, vraiment. Donc son expérience, elle est politique. Après, la compétence d'un mouvement politique et la compétence d'un homme politique, elle ne s'évalue pas sur CV et sur ses accomplissements personnels dans la vraie vie, j'ai envie de dire. C'est, comme on vient de le voir, un parcours politique, donc c'est le fruit des circonstances, d'une certaine dose de talent. Il est porté aussi par le RN. Enfin, lui, il intervient un petit peu comme le couronnement d'une stratégie qui a été pensée par Marine Le Pen pour être une stratégie de normalisation, d'intégration dans le cercle républicain. Elle a profité aussi des faiblesses de la majorité quand il y a eu 2022, les élections législatives, la majorité relative, pour imposer un fonctionnement collaboratif avec le pouvoir, que le pouvoir n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Ça veut dire des postes à responsabilité à l'Assemblée nationale, ça veut dire des textes votés ensemble, ça veut dire aussi un langage médiatique beaucoup plus aseptisé. Jordan Bardella, il est comme Emmanuel Macron, c'est un décalque d'Emmanuel Macron 2017, une surface de projection vide, assez lisse. Il me rappelle Sébastien Kurz, l'ancien Premier ministre autrichien, pour ceux qui le connaissent, qui avait à peu près les mêmes idées, et qu'on surnommait Teflon, parce que tout passait sur lui, c'est la même chose avec Jordan Bardella. Et donc à partir de là, quand il est en difficulté sur un plateau, ça ne l'atteint pas, voire il prend des points dans l'opinion après. Et c'est ça la logique qu'on ne comprend pas chez lui, et ça c'est un message que je veux faire passer en tant que communicant. Les populistes ne fonctionnent pas de la même manière. Penser que 3 ans d'exercice du pouvoir vont l'affaiblir parce qu'il risquerait d'être mauvais, c'est vraiment se tromper très lourdement sur le type de profil qu'il est en train d'incarner dans l'opinion. C'est quelqu'un qui peut se tromper, qui peut être très mauvais professionnellement ou en tant que Premier ministre et qui peut survivre quand même politiquement. Regardez Donald Trump, je veux dire, il n'y a pas pire exemple que Donald Trump, qui a des condamnations à n'en plus finir, des scandales avec des prostituées, des stars du porno, etc. Enfin, voilà. Et pourtant, ça va contre les valeurs morales républicaines traditionnelles. Il est quand même le champion de son camp. Ça ne fonctionne pas comme ça, un populiste. C'est beaucoup plus difficile à contrer. Il faut que la gauche et la droite, d'ailleurs, y réfléchissent, parce que, encore une fois, c'est une menace pour la démocratie. C'est pas juste normal ce qui se passe. On est dans un changement de période.
Alors vous parliez d'Emmanuel Macron en parlant de Jordan Bardella. Il se trouve, Mariette Darrigrand, qu'hier, Le Monde titrait « La macronisation de Bardella ». Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, absolument. Je pense qu'il y a un franchissement de la barrière des espèces.
Ah,
c'est-à-dire qu'il y a des mots de Macron qui vont chez Bardella.
Il y a une hybridation.
Oui, c'est-à-dire que ça bouge. Comme le langage n'est plus ancré dans les sources, eh ben ça bouge. Je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi aussi c'est comme ça à propos de Bardella? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre qu'il manquait une figure, en particulier aux jeunes hommes, enfin, une figure de jeunes hommes qui peut plaire aux jeunes femmes, qui n'est pas donnée par la société actuelle qui est anxiogène, qui est angoissée ou qui a peur de mourir, on va dans le mur, etc., pour des tas de raisons. Et arrive un type qui dit c'est possible de réussir en tant que jeune. Je pense, enfin, on sait sociologiquement, ça se voit, et c'est une incarnation de la réussite fulgurante de la jeunesse, avec le grand sourire qui va avec. La cravate du type qui va passer son entretien d'embauche.
La cravate et le gilet, on l'a vu habillé comme s'il allait à un baptême ou à un mariage.
C'est ça, il est bien habillé, il est bien peigné, il est propre sur lui, mais il a quelque chose, il représente une incarnation du positif qui n'est donné par personne dans la jeunesse. Et là, je pense que c'est une grosse faute des progressistes de la gauche. Elle n'a donné, ces 20 dernières années, que des images négatives du futur. Ça n'est pas possible qu'une société survive comme ça.
Nicolas Lebourg, c'est pensé ça au Rassemblement National ?
Oui, mais la suite de l'article, c'était la macronisation de Bardella et la mélanisation du Rassemblement National. Les deux sont très justes. Ils portent une ligne, qui est une ligne qui permet de traverser les droites, plus libérale, identitaire. Mais je me rappelle du jour où j'y étais, où il devient président par intérim du Rassemblement National. Marine Le Pen l'introduit en le comparant à Napoléon Bonaparte. On parle quand même d'un type qui se présente aux élections, je veux dire, avec le respect que j'ai pour les élus du peuple, bien évidemment. Mais elle parle de ces galons de général gagnés sur les champs de bataille électorale, vous voyez, il y a une grande emphase. On retrouve ce que vous disiez, il y a cette question de l'incarnation extrêmement puissante. Résultat, c'est plus de la politique. Il incarne la nation, il incarne le combat, il incarne la virilité, etc. Il y a toute cette espèce de récit qu'on essaye de construire. Et je crois que c'est entre cette image de Bonaparte et cette image de Macron, c'est quelque chose effectivement tout à fait étonnant à propos de ce jeune homme, mais c'est en tous les cas un peu la trame qui est en train de se faire.
Post-politique presque.
Ouais.
Le téléphone sonne.
Ce soir, nous tentons de faire le bilan de cette campagne éclair avec Philippe Moreau-Chevrolet, François-Mickey Marty, Mariette Darrigrand et Nicolas Lebourg. Et nous partons à présent à Toul retrouver Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Madame Saintès.
Madame Sarvajan, mais c'est pas grave.
Excusez-moi, c'est mon
avis. Je vous en prie.
Excusez-moi, voilà. Pardon. Réflexe. Oui, je vous téléphone parce que moi, en fait, je voulais donner mon point de vue par rapport à tout ce que j'entends sur les ondes de France Inter depuis 15 jours, en fait, sur l'explication du vote FN. Ou comme ce qu'on a entendu tout à l'heure, en fait, sur la dame bretonne, là, c'est-à-dire, je veux retrouver ce que j'avais.
Alors, c'était avant. Maureen, hein, c'était un reportage d'Alain Gastal qu'on a passé dans Une semaine en France, qui expliquait « Je veux retrouver ma France ». La France d'avant.
Et moi, en fait, je voudrais donner... Parce que je pense que devant une caméra ou devant un institut de sondage, il se couvre, il se part de beaux draps pour expliquer tout ça. Mais moi, qui suis une personne de gauche depuis que j'ai l'âge de voter et qui suis entouré d'un père, d'un fils... pas la rigueur d'une femme, de beaux-parents, de collègues qui veulent tous à l'extrême droite. Hein. Moi, je pense en fait que profondément, ces gens qui votent Front National sont tout simplement racistes. Qu'ils ne savent pas faire la différence entre une nationalité, une religion, une origine, et que tous ces gens qui voient qu'ils, si ça se trouve, sont français depuis 40 ans, mais juste, ils n'ont pas la même couleur qu'eux, ou alors ils portent un voile, pour eux, c'est des étrangers. Ils sont pas français. Et je pense que la seule offre raciste, clairement, hein, qu'on leur offre de façon politique, c'est le Rassemblement National. Et que vous avez beau leur expliquer tous les enjeux économiques, les enjeux sociétaux, les tout, etc. Mais rien ne pourra les convaincre, en fait. Parce que ils sont convaincus que le problème, c'est l'étranger. De par sa religion, de par sa couleur, de par ses mœurs. Et que ça, on l'entend pas. On essaie de trouver d'autres excuses. Ils s'en excusent pas. Mais ils essaient de trouver d'autres raisons pour le vote FN. Alors que moi, personnellement, ce que je vois dans mon quotidien, c'est que c'est des gens racistes.
Pas trop difficile au quotidien, Jean-Baptiste.
Ah, j'ai arrêté de me battre. En fait, j'ai arrêté de me battre il y a quelques années. J'adore la politique. J'ai toujours adoré la politique depuis très longtemps et j'ai adoré débattre avec. Ben voilà. Mais là, ça fait des années, j'arrête. Hein. J'en parle plus. J'essaie pas de les convaincre parce que je connais. Et oui, moi, avant, je pouvais être pris pour un chieur, excusez-moi du terme, hein, dans les
entre nous.
Soirées où je parlais de mes convictions et tout. Et j'ai arrêté. Mais franchement, j'ai arrêté parce que ça sert à rien, quoi. Après, j'apporte une nuance par rapport à ce qu'a dit votre intervenant tout à l'heure sur le populisme. Je pense que c'est aussi une forme de populisme, mais qui, pour moi, est clairement, enfin, enrichi par le racisme, quoi. C'est-à-dire, c'est un mix des deux, mais ces gens ont une haine de l'étranger, hein. Enfin, voilà, de deux personnes qui sont différentes d'eux. Pas la même couleur, pas la même religion, pas les mêmes mœurs.
Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ce témoignage. François-Mickey Martin, une réaction ?
Oui, alors merci beaucoup, parce que tout ça est fondamental. Alors, on n'a pas toute la soirée, je crois, pour en parler, mais ce qui est très frappant, si on dézoome un tout petit peu, c'est le fait que la plupart des gens qui ont l'intention d'aller voter dimanche ne le font pas uniquement, voire pas du tout, pour du dégagisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent on va voter pour chacun veut dégager l'autre. Bon. C'est beaucoup plus profond que ça.
Vote d'adhésion.
Il y a un vote d'adhésion. Désormais. Voilà. Il y a un vote d'adhésion pour, de manière globale, lorsqu'on agrège tous les électeurs, pour 65% des personnes qui ont l'intention d'aller voter, donc qui veulent soutenir des projets. Alors, des projets et des visions qui, bien entendu, n'ont rien à voir entre le Front Populaire, le Bloc Central et puis le Rassemblement National. Et on peut dire que ces trois visions-là se définissent de manière extrêmement claire, en effet, par quelques fondamentaux. Alors c'est assez simple. En effet, sur la question de la lutte contre l'immigration, ça fait dire 70% des électeurs du Rassemblement National. Donc, il y a un sujet qu'on ne peut pas évacuer. Et autre point dans ce point, hier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme vient de publier son rapport annuel qui fait état. Alors, c'est documenté à la fois par des données objectives issues des différents ministères, par des études d'opinion, etc., etc., qui fait état sur l'année 2023 d'une progression des attitudes, des actes, des opinions xénophobes, racistes, antisémites, etc. Donc, il se passe quelque chose. Et je crois qu'il serait erroné de le nier. Ensuite, la deuxième chose qui est très sensible, je pense que ça rend compte des tensions que l'on connaît aujourd'hui, c'est que ces trois visions-là, alors même si elles sont caricaturales, on peut toujours nuancer, mais enfin bon, elles sont considérées par la plupart des électeurs et des électrices de chaque camp comme totalement incompatibles avec les autres. C'est-à-dire que, au fond, on a, de la part d'une partie des électeurs du Rassemblement National, globalement un attachement aux identités, à l'enracinement dans des identités. Là où les électeurs du Front Populaire sont beaucoup plus dans la contestation, dans le dépassement des conflictualisations, dans la justice sociale, etc. Et les électeurs je caricature à grands traits, hein, mais comme il faut aller vite, voilà. Et les électeurs du Bloc Central, comme on dit élégamment aujourd'hui, sont beaucoup plus attachés à la fluidité des comportements. Juste une chose, peut-être un exemple pour terminer, parce que ça me semble très révélateur de ce qui est en train de se passer. Le président de la République a donné une interview en début de semaine à un média qui s'appelle Génération Do It Yourself, et il dit, j'ai réussi sur l'économie, mais malheureusement j'ai échoué sur la société. Et il dit, j'ai échoué sur la société parce que je ne suis pas parvenu à sortir les personnes de leur assignation à résidence. Donc, il voulait mettre tout le monde en mobilité. Voilà. Sauf que, y a beaucoup de gens dans ce pays qui n'ont pas envie d'être en mobilité, qui sont attachés à des identités et qui même souhaitent de plus en plus être identifiés à certaines identités. Donc, on voit bien à quel point ça travaille en profondeur. C'est pour ça que je crois que ces élections législatives qu'on est en train de vivre, un, elles ne sont pas anodines. Deux, elles sont très conflictuelles parce qu'en réalité, elles opposent des visions du monde très différentes. Et puis trois, ça n'est pas qu'une attitude face à tel ou tel. Il ne s'agit pas uniquement de se positionner pour ou contre Emmanuel Macron, pour ou contre M. Mélenchon, pour ou contre M. Bardella. Ce sont des visions sur le fond avec des valeurs extrêmement fortes et qui sont très souvent antinomiques en effet.
Alors à propos du racisme, Nicolas Labour, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Félicien Faury qui s'est installé dans le Sud-Est et qui est allé écouter les électeurs du Rassemblement National pendant plusieurs années. Quand on lit ce livre, on se dit qu'effectivement, il y a des tas de raisons, le déclassement social, le logement, etc., le travail, mais il y a quand même un fond de sauce raciste qui est clair, net et sans bavure.
Alors ça, il y a quelque chose qui est important, c'est la question de l'ethnicisation des questions sociales. C'est-à-dire je veux prendre un exemple évident pour aller vite, la question de la sécurité. La sécurité, c'est un enjeu dans une société, il y a des politiques de sécurité, c'est normal. Le discours qui dit toute la question de la sécurité, c'est la question de l'immigration, bien évidemment, ça, c'est le discours de l'extrême droite. Mais quand vous ethnicisez les questions sociales, ce qui se fait plus en plus dans notre société, naturellement, vous allez aller évoluer vers un vote à l'extrême droite. C'est ce qui va correspondre au mieux, de manière assez rationnelle. Et là-dessus, on revient à la question du mot populisme que soulevait votre auditeur. Le mot populisme, c'est marrant, c'est un mot qui s'impose en français en 1912, c'est un russe qui l'invente, mais qui écrit en français. Et la question dès 1912, c'est de lier la tradition, la fierté nationale, les valeurs culturelles traditionnelles à la question du progrès social. Le mot, il naît comme ça. En français, il s'impose comme ça. Et on voit bien que dans ces questions-là, le RN arrive à faire le lien entre cette utilisation des questions sociales, ces valeurs de fierté nationale, nationale, de culture traditionnelle, et d'idée que ça fera un progrès social au bout du compte pour les nationaux.
Oui, c'est très... Le populisme, ça comprend beaucoup de différents aspects. Il y a le racisme dedans, parce que c'est effectivement, on va imposer un cadre de pensée qui est ethnique sur des problématiques qui ne le sont pas à la base. Et on va récupérer comme ça le cadre de pensée et on va gagner une bataille culturelle. Si la gauche a perdu quelque chose, c'est qu'au lieu de se concentrer par exemple sur la question sociale, et de cadrer ça à sa façon, de dire par exemple les services publics, vous savez quoi, c'est les gens, c'est certes France Inter, c'est extrêmement sympathique et prestigieux, mais c'est aussi les personnes qui font votre quotidien. Sans service public, vous n'êtes pas soigné.
Vous n'avez pas l'impression que la gauche a passé son temps à dire ça?
Non, elle n'a pas passé son temps. Regardez la campagne des européennes, c'est fait sur complètement autre chose. C'est sidérant de constater ça. Le RN, lui, a attaqué la question sociale, mais avec son cadre à lui ethnique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé par un résultat. Il est intéressé par une mobilisation des esprits. La bataille culturelle a été gagnée comme ça. Dans le populisme, il y a autre chose qu'avec le chercheur Nicolas Begert, avec qui j'enseigne à Sciences Po, on a appelé le nostalgisme. Et ça, c'est très important. Et Macron en a joué comme le RN en joue. C'est de dire aux gens, regardez, au fond, vous voyez, je parle le même langage que les anciens, je vais utiliser des mots précieux, je vais reconstituer des scènes à l'identique de ce que vous avez connu, je vais être Mitterrand dans la cour du Louvre, le même manteau, la même musique, je vais être Chirac en Israël, je vais même m'engueuler de la même façon, excusez-moi pour le terme, avec les soldats israéliens présents. Je vais rejouer, je vais essayer de donner l'impression que je suis la réincarnation de votre jeunesse, et le RN ne dit pas autre chose à ses électeurs. Il dit en gros, vous en avez marre de cette époque, on va vous en débarrasser, donc on va faire un reset. Voilà. Et ça, ça n'est juste pas possible. C'est une illusion. Mais c'est du populisme.
Voilà. Emmanuel Macron a fait le Conseil national de la refondation.
Mais oui,
voilà,
il y a ça. Le nostalgie est un moteur de communication politique et est utilisé beaucoup par les marques. Hein, ça va être les saucisses avec le tourniquet dans l'eau du petit torrent avec le grand-père et son petit-fils. Mais c'est aussi utilisé en politique.
Et c'est aussi utilisé à gauche, hein, Marie de Darrigrand, le nouveau Front populaire quand même.
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors moi je dirais pas que c'est forcément négatif. Hein. De toute façon, la question de l'identité, elle est très complexe. Elle est d'abord philosophique. Et je pense qu'il ne faut pas la laisser ni aux sociologues, ni aux politologues. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Pour moi, c'est un espoir de ce qui va se passer là, dans la période. Il va falloir qu'on travaille tous ensemble cette question de l'identité, ne pas la laisser à son acception classique en politique qui est, comme l'a dit François-Mickey Marty, y a ceux qui sont accrochés à l'identité et ceux qui sont vers le progrès, par exemple. Non, je crois que là, il va falloir qu'on passe tous à autre chose. Et ce qui manque aujourd'hui, quand les gens disent « je suis de gauche », par exemple, c'est une identité. Or, aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. Il y a ça aussi qui a été fracturé. Donc, il va falloir reconstituer. Et la nostalgie, oui, bien sûr, il y en a, mais l'être humain a besoin de racines, comme on le sait, pour avoir des ailes. Il y a besoin d'invariance pour faire de la nouveauté. C'est une question anthropologique très, très profonde.
On va repartir, je sais qu'on aimerait continuer sur ce point-là, mais on va partir au standard. Romain nous a appelé. Bonsoir, Romain.
Oui, bonsoir, je vous appelle du sud, d'une ville...
Brignoles.
Justement, Brignoles. Ben, j'entends parler beaucoup, et c'est bien d'ailleurs, d'identité, de populisme, de racines. Bref, on est toujours dans une discussion de l'entre-soi. Mais moi, je suis actuellement au chômage et handicapé. Donc je voudrais vous parler aussi de toute cette frange de la population qui est en effacement complet. Et je dirais même plus, pour me référer au passé... qui est stigmatisé aussi. Rappelez-vous, les chômeurs qui sont là parce que ça leur fait plaisir, les handicapés qui touchent peut-être un peu trop de prestations. Il y a donc véritablement un effacement, une stigmatisation. Et durant cette élection, et même les européennes, on n'a jamais entendu parler, certes sur la loi chômage, mais sur la place de ce que j'appelle, parce que j'y suis, une masse grise. Une masse grise, et celle-là, parce que là vous parlez toujours d'un entre-soi. Ces élections ne changeront rien, on est dans le populisme, dans les racines, etc. Mais j'avertis que cette masse grise, qui est sans foi, ni loi, elle recèle en elle des dangers bien plus grands à venir. Voilà ce que je voulais porter comme témoignage.
Merci beaucoup Romain, on vous a écouté avec beaucoup d'attention, Philippe Moreau-Chevrolet.
Mais oui, c'était frappant, il y a eu une réforme de l'assurance chômage pendant les européennes. C'est une réforme que la gauche juge, de fait, inique. Je ne juge pas, c'est l'argumentaire de la gauche. Au lieu de faire campagne sur les européennes là-dessus, on a parlé aux gens de politique étrangère. Alors, la politique étrangère...
Vous êtes marrant, vous, les européennes, c'est quand même aussi le Parlement européen.
Je suis d'accord, mais non, parce qu'on n'a pas parlé de l'Europe.
On a parlé du Parlement européen.
On a parlé du Moyen-Orient, à gauche. ce qui est pour se défendre. Moi, je ne dis pas qu'il faut en parler. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis qu'il y a une réforme de l'assurance chômage qui va précariser, comme monsieur nous dit, des millions de gens et qui est effectivement un combat que doit porter la gauche. Est-ce que la gauche a parlé de ça?
Oui.
Non. Moi, je suis désolé, dans le bruit médiatique qu'on a entendu, c'était 10% du discours de la gauche. Je dis juste, si on veut redevenir fier d'être à gauche quand on est de gauche, il faut retrouver ses cadres de pensée à soi, son autonomie de la pensée, et il faut être capable de défendre les gens sur des bases qui sont les nôtres. On ne va pas défendre ce monsieur en disant « vous êtes handicapé, donc je vais vous défendre en tant qu'handicapé ». Juste, il a le droit en tant que citoyen français d'être reconnu comme citoyen français à part entière, d'avoir une égalité de droit dans la réalité, pas juste dans les mots, et qu'on arrête de l'insulter, évidemment, dans les discours publics. C'est quelque chose qui, est pour la gauche, est quand même très naturel. Pourquoi on a perdu ça à gauche? Je ne sais pas.
François, Mickey Marty, vous êtes d'accord?
Oui, sur deux choses. L'importance d'abord des parcours de vie et des récits de vie. C'est vrai que c'est toujours très gênant d'agréger des ensembles et des points de vue globaux. L'idée des épreuves de la vie, c'est-à-dire de ce qu'on vit au quotidien, est extrêmement déterminante. J'ai l'impression que personne... Alors j'ai écrit un livre, en effet, qui s'appelle « Les oubliés de la démocratie », où j'ai rencontré beaucoup de gens chez eux.
C'était un petit moment, mais ça reste parfaitement d'actualité.
Et oui, et déjà, il y a quelques années, plus de 50% des Français estimaient que personne ne prenait en compte, ne les écoutait, n'était là avec eux pour les accompagner. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, qui est, je pense, malheureusement, un sujet de réflexion beaucoup plus profond et difficile à résoudre, c'est cette idée du déclassement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de 60% des Français qui estiment que non seulement leur situation se détériore, mais elle va se détériorer au cours des années qui viennent. Et il y a une question majeure entre la démocratie et cette réalité, qui n'est pas que de l'imaginaire, qui est souvent une réalité vécue et qui n'est pas simple à vivre. Comment inciter, comment comprendre que l'on puisse voter pour des gens pour lesquels on a déjà voté, alors que votre situation se détériore et qu'elle va encore se détériorer? Voilà. Il y a quelque chose, ça me semble fondamental, je pense que c'est au cœur aussi de tout ce qu'on est en train de vivre, sauf que pour dire les choses assez simplement, en 2000, la moitié des Français avaient le sentiment que leur situation allait se détériorer, aujourd'hui on est à 62-63%. Donc on comprend aussi que le périmètre politique et le champ politique bougent et travaillent, pour reprendre un mot cher à Mariette Daré-Grand, aujourd'hui.
Voilà, et je voudrais vous soumettre un certain nombre de messages qui nous arrivent sur WhatsApp et par mail. Comment se fait-il que 35% d'électeurs, ce qui représente en fait 20% de la population en âge de voter, peut imposer sa vision de la France à tous? Ça, c'est ce que nous dit Véronique. Et puis, il y a aussi Marie-Alice sur WhatsApp. J'ai l'impression que quand j'entends les médias, qu'on ne parle que du RN vainqueur, est-ce qu'on ne s'habitue pas à cette idée avant le résultat, soit pour faire peur, soit au contraire pour s'habituer, pour s'y préparer? Je ne sais pas qui veut réagir, Nicolas Lebourg. On en fait trop sur le Rassemblement National? Ce serait bien que vous mettiez devant le micro.
Que l'on parle du possible vainqueur et de la première victoire démocratique de l'extrême droite me paraît tout de même relativement rationnel. Sur ce qui dit ensuite, on voit bien qu'on a des difficultés, parce que c'était très intéressant ce que disait votre éditeur, mais il me semble, je me trompe peut-être, que parmi les personnalités à gauche qui ont émergé les plus populaires aujourd'hui en France, c'est Fabien Roussel, c'est François Ruffin, c'est des gens qui parlent du travail, qui parlent de la décence des travailleurs.
Absolument.
Et c'est plutôt,
pas un hasard. C'est pas
ça
un
me paraît
hasard.
Pas du tout un hasard. Et je crois que c'est ceux qui polémiquent matin, midi et soir sur le Moyen-Orient qui, au contraire, sont en bas des classements de popularité. Donc ça existe. Le problème, c'est pourquoi, alors que ça existe, alors que c'est eux qui sont populaires, on a l'impression, effectivement, qu'ils ont peu de place et qu'ils arrivent peu d'espace pour pouvoir porter la parole de ces gens et la question de la décence commune. C'est un peu là-dedans dans lequel il me semble qu'on est bloqué.
C'est intéressant que vous parliez du travail, parce que toutes les études ont montré, et on en a parlé de ces études, que la question du travail, on en a parlé au moment des retraites, était une question essentielle et qu'elle conditionnait aussi le vote. C'est ce qu'a montré par exemple le chercheur Bruno Palier dans un très beau livre qui est une vraie synthèse du travail de tous les chercheurs sur le travail. Vous, Mariette, qui venez d'écrire un livre sur le travail, vous n'allez pas nous dire le contraire?
Ah non, bien sûr. Je pense d'ailleurs que c'était un absent, ce concept-là. Et il faut le réouvrir, parce qu'on en a une vision souvent très doloriste. On le réfère au tripalium, à la torture, etc. Alors que, bon, j'ai pas le temps là de le dire, mais c'est une étymologie magnifique. Le travail, c'est un mot de la langue d'oc et qui veut dire en gros le bois. Donc c'est ce qui nous charpente. Alors bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent au travail. C'est un gros sujet. D'ailleurs, jamais très bien compris, parce que les écrits là-dessus sont anciens. Donc les politiques n'ont jamais vraiment repris la chose. Mais dans le réel des gens, c'est tout à fait important. Mais il faut réouvrir le mot. Parce qu'il faut le regarder, par exemple, chez les Grecs, il n'y avait pas ce mot. Il y avait énergie, l'ergone. Il y a la création. Il y a même le voyage, le mot « travel » en anglais, ça vient de travail français. Donc oui, le travail, travaillons-le pour la suite et au lieu de nous invectiver. Voilà, je crois que c'est très important.
Philippe Manchon.
Moi, je voudrais terminer par votre première auditrice, elle a parlé d'espoir. Moi, ce que je retiens, c'est que le Front populaire, il réussit pourquoi ? Parce qu'il y réussit. Il ne battra peut-être pas le RN, mais il réussit pourquoi ? Parce qu'il crée du commun et un avenir qu'on peut estimer positif, et on projette les gens vers autre chose. Et ça, c'est ce que la gauche a perdu depuis un certain temps, et on est en train de le retrouver dans cette élection. Et ça, oui, ça c'est un signe d'espoir.
Dernier mot d'espoir, en 10 secondes, François-Mickey Marty.
Je crois qu'il faut précisément parler de l'avenir. Peut-être cette campagne des législatives, bizarrement, traite assez peu de qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans, dans 10 ans, comment on pense, en effet, le travail, l'entreprise, l'innovation, et dans quel cadre.
On a eu un petit peu de mal, vu le temps pour mettre sur pied de vrais programmes. c'est un petit peu ça le problème, ce manque de temps de cette campagne aussi rapide, aussi campagne éclair, Mariette.
Ça fait partie du problème que nous avons, d'ailleurs. C'est-à-dire que nous n'avons pas élaboré ce qui s'est passé, le résultat des européennes, et c'est le labor collectif, la collaboration. Ça nous a manqué, c'est ça aussi qui nous agit sur
le. Et peut-être qu'on aurait besoin d'un cadre aussi de décision démocratique plus collectif aussi et moins individuel.
Promis, on refera des téléphones sonnent. Merci à tous les quatre et merci pour vos appels juste après les infos de 20h. L'heure philo. Bonsoir Patricia Martin.
Bonsoir Claire Savageon.
C'est la dernière de la saison.
C'est la dernière et pour la dernière, eh bien nous allons parler d'Émile Cioran. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire.
Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ce sera après les petits bateaux de Camille Crenier.